s'arrêter, prendre le temps d'écouter. Sonographie marseillaise. Une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne.
Radio Grenouille.
Euphonia.
Et Manifesta 13.
Bonne écoute. Ce monde qui nous inspire à la croisée de l'art et de la science.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Flock, je suis artiste plasticien. Je travaille aussi avec différents médiums, en sculpture, en photographie, en vidéo. Je travaille beaucoup sur et sous et dans l'océan. Je suis plongeur donc également. Et je mène un travail depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur la représentation des paysages sous-marins.
Bonjour, je m'appelle Sylvain Agostini. Je suis assistant professeur à la fac de Tsukuba au Japon. Je suis basé à la station marine de Shimoda, juste sur une plage en face de l'océan Pacifique. J'ai rencontré Nicolas durant l'expédition Tara-Pacifique. Nous avons commencé à collaborer et notre collaboration continue. Et nous avons un projet qui est de documenter, soit artistiquement, soit scientifiquement, les paysages sous-marins et leur évolution avec le changement climatique.
Je travaille sur un inventaire des paysages sous-marins sur les côtes françaises, un inventaire des différentes typologies de paysages, et je les mets en perspective de manière globale. Alors pourquoi photographier ces paysages et pourquoi travailler sur les paysages sous-marins? Parce que j'ai constaté qu'ils étaient très peu représentés, en tout cas qui constituait rarement le sujet des images, puisque la photographie sous-marine est en général une photo animalière, une photo sportive, où on est sur la performance physique, l'apnée par exemple, ou une photo d'expédition qui est quand même relativement anthropocentrée, où le plongeur va être toujours présent dans l'image, ou une photo scientifique qui est morcelée, parce que souvent c'est le quadra qui va. On en a besoin d'un espace mesurable. Et l'espace panoramique n'est pas montré, en fait. On a quelques vues, plus un peu dans les pays tropicaux, puisque le corail va pouvoir être le sujet des images, mais pas le paysage en lui-même. Donc il y a ce premier constat, le fait que ces paysages se transforment très vite sous l'eau, pour différentes raisons. Et donc on n'a pas toujours de référent des paysages avant qu'ils se transforment. Et il me paraît important d'avoir une vision comme ça d'un ensemble de sites avec un même regard à un instant donné.
Il n'y a à ma connaissance aucune technique de documentation d'un paysage sous-marin scientifiquement. Il y a des indices de biodiversité, va documenter le nombre d'organismes de chaque espèce, mais il n'y a aucune vision globale vraiment de l'écosystème. Comme le dit Nicolas, scientifique, nous allons traduire ces indices, ces abondances en courbes, en figures scientifiques, mais il manque vraiment un aspect humain. Et c'est là que la collaboration science-art montre toute sa valeur, où les deux techniques de documentation, scientifique et artistique, se complémentent et vraiment on obtient une vision humaine et globale de l'écosystème et de ses paysages sous-marins.
Ces deux images font partie d'une série assez large qui englobe des sous-séries, comme celles qui sont présentées au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce moment. Donc là, on est plus sur une série qui est liée à l'acidification. Donc la grande série s'appelle Paysages productifs et sur, quelque part, la productivité, on va dire, des écosystèmes. Qu'est-ce qu'on voit si on décrit purement les deux images ? D'un côté, on a une image en milieu tempéré avec des algues et des coraux et une certaine diversité dans un milieu non acide, mais qui subit le réchauffement. Et à côté, on est sur un site acide où le paysage est complètement transformé, c'est-à-dire qu'on a cette question de la chute de la biodiversité, on la voit dans ces images, l'autre, l'image en milieu acide, et on voit un milieu simplifié. On passe d'un paysage diversifié à un paysage presque désert, en fait.
Les deux photos qui sont présentées ont été prises au large de l'île de Shikinai, une des petites îles de Izu, au Japon. Cette île est située à 34 degrés nord de latitude, donc en milieu tempéré. Ce qui frappe vraiment sur la première des deux photos, c'est l'abondance de corail tabulaire, de corail incrustant. Et ces coraux sont plutôt associés à des milieux tropicaux. Là, à Shikinai, ils cohabitent avec une population quand même très diverse d'algues. Mais ce qu'il s'est passé, c'est que dans les 20 à 30 dernières années, avec le réchauffement climatique et l'augmentation des températures, les grandes algues typiques d'un milieu tempéré ont disparu et laissent de plus en plus place au corail. C'est ce que l'on appelle un phénomène de tropicalisation. La deuxième photo a été prise dans la baie juste à côté de la première photo. Mais cette baie est sous l'influence de sources de CO2 volcaniques. Due à l'activité volcanique, du CO2 s'échappe de la croûte terrestre et acidifie l'environnement. C'est donc un site acide. Les taux de CO2 que l'on trouve et les taux de pH que l'on trouve dans cette baie sont équivalents au CO2 et au pH que l'on aura à la fin du siècle si les activités humaines et le rejet de CO2 humain continuent. On voit vraiment une différence marquante entre les deux paysages, entre les deux écosystèmes, où le premier paysage est riche, a une grande biodiversité, et en comparaison, le paysage documenté dans la deuxième photo est vraiment très pauvre. On voit un tapis d'algues qui couvre tous ces rochers, mais très peu de diversité, très peu d'espèces d'algues et d'animaux aussi, et surtout une absence de corail. C'est un paysage appauvri, simple, sans habitat, qui ne peut pas supporter une grande diversité.
Pour moi, c'est important de travailler, je dirais, à différentes échelles, d'approcher des représentations complexes et de montrer aussi les interactions et de révéler des choses invisibles et aussi de donner forme à des notions abstraites, comme par exemple en Sicile, sur l'île de Vulcano, et où là on voit des paysages méditerranéens, cette fois-ci, avec le même type de contraste entre le milieu acide et non acide, et on a des paysages qui sont à la fois diversifiés et assez exubérants, et une exubérance qu'on ne trouve pas dans les calanques. Là, on a des pressions qui sont aussi inscrites dans le paysage de la même manière, qui sont anthropiques, mais d'une autre forme, mais liées surtout à des rejets. Hein. Cette inscription dans le paysage est tout aussi marquée.
Le réchauffement climatique et l'acidification des océans, ce sont des problèmes planétaires, des problèmes globaux. Que ce soit en France, au Japon, en Italie, en Sicile, le problème est le même. Avec les rejets de CO2 de l'activité humaine, la température augmente, le pH diminue, et cela est vrai tout autour de la planète. Le pire, c'est que ces problèmes planétaires, ces stress globaux, viennent s'additionner à des stress locaux qui peuvent avoir des effets au moins aussi forts, si ce n'est plus. Et cela, on le voit bien dans la documentation faite par Nicolas de l'écosystème des Calanques, où les zones polluées n'ont rien à voir avec les zones beaucoup moins polluées. Toutes les études s'accordent pour dire que les stress globaux, comme l'acidification des océans, le réchauffement climatique, et locaux, comme la pollution, l'aménagement des côtes, vont mener à une perte de productivité des écosystèmes marins, une perte de la biodiversité marine. Nous, scientifiques, nous n'avons pas réussi vraiment, je pense, à faire passer le message, à montrer que si l'on continue sur cette voie, nous allons perdre nos écosystèmes marins. Ils vont être simplifiés à profit. Je crois qu'il y a quelques exemples, comme par exemple le plastique, la pollution plastique marine, où il y a un engagement de la société qui commence, un engagement des politiques qui commence pour essayer de résoudre ce problème. Le plastique, c'est quand même très visuel comparé au réchauffement climatique, comparé à l'acidification des océans. C'est facile à comprendre. Et je crois que c'est là que la documentation science-art, la documentation des paysages marins est peut-être une solution pour provoquer un engagement de la société.
La question de la représentation est très importante aussi parce qu'on a une perte de la normalité. C'est-à-dire ce qui est normal pour quelqu'un aujourd'hui est un écosystème appauvri pour une génération précédente. Les photos, je dirais qu'elles sont destinées à tous les publics. Je m'adresse à des publics divers et je ne pense pas qu'à un public artistique. Il y a cette question de montrer un territoire de proximité. C'est une chose qui est essentielle pour permettre d'approcher ce qu'il y a sur la surface et de considérer qu'il y a un monde qui existe. Et ce monde aussi, je pense qu'il est important d'interroger justement les représentations qui sont faites de ce monde sous-marin. Les premiers paysages sous-marins qu'on découvre directement, c'est derrière la vitre de l'aquarium, mais c'est un milieu complètement scénarisé. Et quelque part, c'est comme si on avait toujours essayé de retrouver, de reconstruire ce qu'on peut voir dans un aquarium, alors que l'océan n'est pas un aquarium. Je crois qu'il y a un gros travail à faire sur les représentations du milieu, et c'est ce que je tente d'interroger en tout cas.
Ce monde qui nous inspire. Une série de rencontres à la croisée de l'art et de la science, co-réalisée par Radio Grenouille Euphonia et l'Institut PTS. Équipe de réalisation, Chloé Despax, Marine Sahabi Gomi et Jean-Baptiste Imbert. Sonographie marseillaise. Une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne.
Radio Grenouille.
Euphonia.
Et Manifesta 13.